de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien, et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le Festival du film Europe à l'écran 2020 fait la promotion du talent des jeunes cinéastes indonésiens. Décès du ministre syrien des Affaires étrangères. La Nouvelle-Zélande nie que les exportations de viande étaient exposées à Corona vers la Chine. Les États-Unis ont donné 83 ventilateurs au centre de Jaffa. Balil a déclaré que l'Australie construirait un hôpital d'une valeur d'$1 milliard. Le chef d'état-major de la marine s'assure que les eaux Natuna sont sûres sous contrôle. La valeur de transactions 2020 Trade Expo a atteint $579.82 million. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le Festival de film de l'Union européenne, l'un des plus grands festivals de cinéma avec la plus longue durée d'Indonésie, est de retour du 16 au 30 novembre 2020 via la plateforme en ligne Festivalscope. Cette année, 40 films de 25 pays européens peuvent être regardés gratuitement de n'importe où en Indonésie. Vincent Piquet, l'ambassadeur de l'Union européenne en Indonésie, dans ses remarques lors de l'ouverture virtuelle d'Europe à l'écran lundi, a déclaré qu'en plus de présenter des films de 25 pays européens, ce festival du film promeut également les talents des jeunes cinéastes indonésiens à travers l'événement concours de courts-métrages ou concours de promotion de courts-métrages. Le festival souhaite également promouvoir des jeunes réalisateurs indonésiens promoteurs. Par conséquent, comme les années précédentes, nous organiserons un concours de promotion de courts-métrages. Pour la compétition de cette année, nous avons reçu 170 films et nous annoncerons les gagnants lors de la clôture du festival dans 15 jours. L'ambassadeur de l'Union européenne, Vincent Piquet, a également déclaré qu'en plus d'être un moyen de divertir tout le monde, les films peuvent également enrichir les téléspectateurs avec un aperçu de diverses cultures. Il espère qu'Europe à l'écran 2020 pourra continuer à diffuser des messages sur la compréhension interculturelle entre des personnes de croyances de pensées et de valeurs différentes. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Walid al-Mualim, est décédé à l'âge de 79 ans lundi. Il est connu pour être l'un des visages les plus importants de la Syrie dans le monde lors du soulèvement contre le président Bachar Assad. La dernière apparition publique al-Mualim a eu lieu lors de l'ouverture de la conférence internationale sur les réfugiés à Damas, mercredi 11 novembre. À cette époque, sa santé était déjà mauvaise. Le lendemain, il n'a pas assisté à la cérémonie de clôture de l'événement qui s'est tenue conjointement avec la Russie. Walid al-Mualim a été enterré lundi après-midi. La première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, a déclaré qu'elle examinerait les rapports sur les exportations de viande et de tripes congelées contaminées par le coronavirus vers la Chine. Elle a déclaré que la viande congelée ne venait pas de la Nouvelle-Zélande. Ardern a déclaré lundi que son parti avait été informé qu'il s'agissait de bœuf argentin. Il essayait seulement de découvrir l'essentiel du problème qui avait été signalé, mais son parti continuerait à vérifier. Renforçant la déclaration, Ardern, un porte-parole du ministre des Affaires étrangères et du Commerce de la Nouvelle-Zélande, a déclaré que son parti n'a pas encore été informé directement à propos des découvertes du virus corona dans la viande congelée par les autorités chinoises. Le responsable néo-zélandais travaille actuellement de vérifier l'origine et la véracité du rapport. Et dimanche 15 novembre, le gouvernement de la ville de Jinan en Chine a signalé avoir trouvé le virus corona dans du bœuf et de tripes importés du Brésil, de Bolivie et de la Nouvelle-Zélande. L'Agence des États-Unis pour le développement international a fourni 83 ventilateurs pour aider à traiter COVID-19 dans le centre de Jaffa. Les dizaines de ventilateurs font partie d'un total de 1000 ventilateurs donnés par les États-Unis à l'Indonésie dans le but de contenir la pandémie. L'ambassadeur américain en Indonésie, Sung Yi Kim, a déclaré lundi dans une déclaration écrite que le ventilateur aiderait les hôpitaux du centre de Jaffa à traiter les patients malades. Il est fier de pouvoir coopérer à la prévention des maladies, le diagnostic et le renforcement des capacités par l'USAID, le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies, des entreprises américaines et d'autres partenaires. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le chef du Conseil de coordination des investissements, Bahlil Lahadalia, a déclaré que l'Australie construirait une infrastructure de santé sous la forme d'un hôpital d'une valeur d'un milliard de dollars américains, comme indiqué dans le protocole d'accord signé lors du sommet de l'investissement de Java Occidental 2020. Bahlil Lahadalia a déclaré cela dans un dialogue virtuel concernant l'impact de la loi sur la création d'emplois et l'accord de partenariat économique global Indonésie-Australie, ou IACPA, sur l'investissement lundi. Il a expliqué que pour faciliter l'investissement, il interviendrait dans la gestion de l'accélération des licences d'investissement. Selon Bahlil, au milieu de la pandémie COVID-19, l'investissement dans le secteur de la santé est l'une des priorités. Et la loi Omnibus sur la création d'emplois devrait également accélérer le processus d'investissement. Le chef d'état-major de la marine, l'amiral Yudo Margono, s'assure que les eaux de la mer du nord de Natuna soient sous contrôle, tout en sécurité. Selon lui, aucun pays qui essaie de harceler la région. Yudo Agraha Marinir Jakarta lundi a déclaré que chaque jour, la marine indonésienne alerté 4 navires de guerre indonésiens pour maintenir la zone propice. Yudo a déclaré que les 4 KRI ont été alertés en 2 points, à savoir la mer territoriale indonésienne qui a été tirée à 12 milles du littoral et la zone économique exclusive. Et selon lui, les mesures décisives seraient prises si un pays étranger tentait de s'approprier les ressources naturelles de l'Indonésie sans autorisation. L'exportation virtuelle Trade Expo Indonesia 2020 est officiellement fermée. Le plus grand acteur commercial Asie du Sud-Est, qui s'est tenu du 10 au 16 novembre, a réussi à enregistrer des transactions de 579,92 millions de dollars américains. Le ministre indonésien du Commerce, Agus Suparmanto, lors de la clôture de la 35e exposition virtuelle Trade Expo Indonesia lundi, a déclaré que la transaction Trade Expo Indonesia Virtual Exhibition concernait 60 exportateurs et 42 acheteurs de 15 pays. Pas seulement les transactions, selon Agus, ce salon qui se tient pratiquement génère également des investissements nationaux. Selon lui, l'engagement d'investissement est évalué à 110 millions de dollars américains. Agus a admis qu'il était satisfait des réalisations de la 35e exposition commerciale. La région entend que, même au milieu de la pandémie de COVID-19, cette exposition obtient un maximum de résultats. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Bonsoir. Après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire ayant pour le titre des messages dans la Journée internationale pour la tolérance. Le monde commémore la Journée internationale pour la tolérance tous les 16 novembre 2020. L'UNESCO, sur son compte Twitter, délivre des messages et des invitations. Dans un monde diversifié, la tolérance est une condition préalable à la paix, Chaque jour, nous devons construire de nouveaux ponts pour la tolérance, la confiance et la compréhension. En effet, le 16 novembre, on nous rappelle la tolérance. Pour l'Indonésie, ses paroles et ses actions ont pris racine dans la vie de tous ses habitants. La nation indonésienne est devenue grande et forte car elle était enracinée et l'attitude croissante de tolérance. Non seulement la tolérance entre les communautés religieuses, mais aussi la tolérance entre les groupes et les ethnies. La tolérance est la clé du maintien de la paix. Lors de la 11e conférence de haut niveau ASEAN-ONU, qui s'est tenue virtuellement le 15 novembre 2020, le président Joko Widodo a encouragé l'ONU à maintenir la diversité et la tolérance. Il a également exprimé sa préoccupation de voir l'intolérance religieuse et la violence au nom de la religion au milieu de la pandémie actuelle. Si cela est autorisé à le faire, l'intolérance déchira l'harmonie et favorise le radicalisme et l'extrémisme. À cette occasion, le président Joko Widodo a invité le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à inciter le monde à continuer de travailler ensemble pour renforcer la tolérance, prévenir les discours de haine et rejeter la violence pour quelque raison que ce soit. L'invitation du président Joko Widodo est la même que celle transmise par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans son compte Twitter lundi le 16 novembre. Antonio appelle à la commémoration de la Journée internationale pour la tolérance pour renforcer la dignité humaine, lutter contre le racisme et favoriser la paix au quotidien. Il a également exprimé sa ferme conviction qu'en adoptant la diversité et le respect mutuel, chaque nation peut aider à résoudre les plus grands défis. Le maintien de la tolérance doit être une nécessité. Cela a été transmis par le président de l'Assemblée représentative du peuple de la République d'Indonésie, Bambang Susatyo, lors d'une discussion virtuelle lundi le 16 novembre. Selon lui, la négligence de tous les éléments de la nation à semer la tolérance peut conduire à l'intolérance. Le message sur l'importance de maintien des valeurs et de la tolérance doit continuer d'être repris. Pour le peuple indonésien, ce message est profondément ancré dans Pancasila. En pratiquant les valeurs contenues dans Pancasila, le peuple indonésien interprète et pratique la tolérance. La tolérance est un mot simple, mais elle a une signification profonde et puissante pour maintenir la paix. Chacun doit pratiquer la tolérance les autres, même s'il a des croyances, des ethnies ou des groupes différents. Comme indiqué dans la Déclaration des Nations Unies de 1995, la tolérance est le respect, l'acceptation et l'appréciation de la riche diversité des cultures de notre monde, de nos formes d'expression et de la façon dont nous sommes humains. La nation indonésienne doit continuer à renforcer la tolérance pour que l'intolérance n'ait pas sa place, en particulier en Indonésie et dans d'autres pays en général. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyo shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting overbragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Saya cerita bonsoir, selatang metang pour nous de vous présenter l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement la résolution 89 du Conseil de sécurité de l'ONU est adoptée. La résolution 89 du Conseil de sécurité des Nations Unies a été adoptée le 17 novembre 1950. La résolution a déclaré qu'après avoir reçu des plaintes de l'Égypte, d'Israël, de la Jordanie et du chef d'état-major de l'Organisation de surveillance de cessez-le-feu concernant la mise en œuvre du traité de cessez-le-feu destiné à mettre fin à la guerre israélo-arabe, le Conseil a demandé à la commission mixte d'armistice égypto-israélienne de prêter attention aux plaintes concernant l'explosion de milliers d'Arabes palestiniens. Le Conseil a demandé aux deux parties de répondre aux conclusions de la Commission et de rapatrier tous les Arabes qui auraient le droit de rentrer chez eux par la Commission. L'autre information est sur le 14e Dalai Lama est nommé à la tête de l'État tibétain le 17 novembre 1950. Tenzin Gatso est le 14e Dalai Lama du Tibet. Le 17 novembre 1950, à l'âge de 15 ans, il accéda à trône à la tête de l'État tibétain pendant l'occupation de la région par les forces de la République populaire de Chine. Après la défaite du mouvement de résistance tibétain en 1959, Tenzin Gatso s'est enfui en Nantes et a établi un gouvernement tibétain en exil. Tenzin Gatso est le premier Dalai Lama à visiter le monde occidental. En 1989, il a reçu le prix Nobel de la paix. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 17 novembre 2013, l'écrasement du vol 363 de Tatarstan Airlines. Le vol 363 de Tatarstan Airlines est un vol intérieur régulier de passagers opéré par Tatarstan Airlines sous le nom d'Akbars Aero de Moscou à Kazan, en Russie. Le 17 novembre 2013 à 19h20 heure locale, le Boeing 737-500 s'est écrasé à l'aéroport international de Kazan lorsqu'il tentait d'atterrir, tuant les 44 passagers et 6 membres d'équipage. Cet accident a conduit à la fermeture temporaire de l'aéroport. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Lama ku rasa sepinya hati.
kau lupakan. Di mana lagi, kemana lagi harus ku cari tempat untuk bertanya. Angin pun tiada, burung pun tiada, semua tiada bawa berita. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biarlah semua akan kupasrahkan padanya. Aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biarlah semua akan kupasrahkan padanya.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie intitulée L'adaptation et la coopération internationale sont essentielles aux efforts de résolution des crimes internationaux. La ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Mme Retno Marsudi, a déclaré « Au milieu d'une pandémie, le crime organisé continue de se produire, même dans le domaine de la santé, comme la contrefaçon de médicaments et la cyberattaque contre des infrastructures de santé vitales. » Retno Marsudi a exprimé dans son discours à l'occasion du 20e anniversaire de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. La commémoration a eu lieu virtuellement au siège de l'ONU à New York vendredi 13 novembre. La page comlu.go.id du ministère des Affaires étrangères a rapporté que cette commémoration a également été suivie par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Volkan Bozkir, et la directrice exécutive de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, Gada Wali. Retno Marsudi a indiqué que pour faire face au défi de la criminalité transnationale organisée, plusieurs choses doivent être faites. D'abord, la ministre Retno a souligné que les caractéristiques de la criminalité transnationale organisée ont tendance à être différentes d'un pays à l'autre, de sorte que l'approche adoptée doit être situationnelle. Deuxièmement, l'importance de développer et de maintenir la coopération entre les pays du monde entier. Aucun pays ne peut résoudre ce problème seul, ni avant ni pendant la pandémie COVID-19. La ministre Retno Marsudi a également déclaré spécifiquement la question des réfugiés Rohingyas en tant que forme de trafic et trafic d'êtres humains organisé dans la région. L'Indonésie accueille actuellement plus de 900 personnes qui ont été victimes de traités des êtres humains et déplacées en haute mer. L'Indonésie insiste à nouveau sur l'importance de résoudre ce problème de Rohingyas depuis la racine du problème par un rapatriement volontaire sûr et digne. La ministre Retno a déclaré que pour l'Indonésie, le Myanmar était un foyer pour les réfugiés Rohingyas. Troisièmement, l'approche et la solution adoptée doivent continuer de s'adapter en fonction des caractéristiques du crime. Concernant cette question, la ministre Retno a réitéré l'importance de l'adaptation continue afin que la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée reste pertinente pour surmonter la criminalité transnationale organisée maintenant et à l'avenir. La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée a été adoptée à Palerme, l'Italie, en 2000. Cette convention est le principal instrument juridique international résiste le problème de la lutte contre la traite des personnes, le trafic d'êtres humains et le commerce illicite des armes à feu. L'Indonésie est partie à la convention depuis 2009. L'Indonésie a été choisie pour être l'un des co-auteurs avec l'Italie et le Maroc à l'occasion du 20e anniversaire de l'adoption de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée qui a été initiée par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. L'OFRE en tant que seul sponsor d'Asie montre une reconnaissance internationale du rôle et du leadership de l'Indonésie dans l'effort de lutte contre la criminalité transnationale organisée. Chers amis, c'était la rubrique « Mon Indonésie » de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Kita masih terus begini, takkan pernah ada damai bersenandung. Kemesraan antara kita berdua, sesungguhnya keterpaksaan saja. Sekedar saja sebagai pelengkap sempurnanya sandiwara, berawal dari manisnya kasih sayang. Terlanjur kita hanyut dan terbuang. Ku coba sempurnanya sandiwara, berawal dari manisnya kasih sayang. Terlanjur kita hanyut dan terbuai. Ku coba bertahan mendampingi. Tiada penyesalan agar tiada penyesalan.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Chers amis, voici le magazine culturel introduisant l'écotourisme du village Rahong. Pengalengan Etang Su District en région Bandung, Jawa West. Cette zone est connue comme le centre de la production laitière. Pengalengan a également une variété d'attractions touristiques intéressantes. L'un d'entre eux est l'écotourisme du village Rahong. Cette zone écotouristique s'étend sur 4,5 hectares et est divisée en 6 grappes différentes. Chaque grappe a d'excellentes activités. Par exemple, la région de la forêt de pins Rahong a plusieurs jeux. La boule de peinture et le renard volant, par exemple. Il y a aussi des jeux amusants dont les prix dépendent des demandes de jeux de chaque visiteur. La forêt de pins Rahong est utilisée comme terrain de camping. Le tarif par nuit et 20 000 rupiahs par personne. Ce prix n'inclut pas le prix du billet d'entrée de 5 000 rupiahs. La grappe plate de pin est spécialement pour les activités de camping. Il existe deux types d'activités de camping, à savoir le camping avec la tente d'hommes en famille. Le second est le camping avec un véhicule qui peut être amené dans la région ou au jeep camp. Vient ensuite le tourisme naturel Singkur. Cette grappe est située sur les rives de la rivière Palayangan. Ici, vous pouvez utiliser des pneus pour tracer des eaux rapides de la rivière Palayangan. Les prix varient de 50 000 à 90 000 rupiahs par personne, en fonction du nombre de personnes participant aux installations et de la distance parcourue. Il y a aussi des activités de rafting. Dans un seul forfait de rafting comprennent la consommation, l'équipement de sécurité, les guides, l'assurance et le transport local. Si vous voulez faire monter l'adrénaline mais ne voulez pas vous mouiller, il existe un forfait tout terrain pour 200 000 rupiahs par personne avec l'itinéraire Gambung, lac Cilenca ou Montilu, Warnasari, Situ Cilenca. Vous pouvez aussi vous promener dans la forêt de pins autour de la rivière. Ensuite, il y a la grappe des collines Rahong. Habituellement, cette grappe est utilisée pour la zone de selfie. Il existe plusieurs installations de spot photo préparées par le gérant. Si vous souhaitez passer la nuit, mais ne voulez pas rester avec les tentes, vous pouvez également choisir plusieurs chalets disséminés dans la grappe du tourisme naturel Singkur et du tourisme du village Singkur. Cher le tourisme naturel Singkur, il existe plusieurs chalets simples à des prix tout à fait abordables. La petite cabane en bambou coûte environ 250 000 rupiah par nuit. Si vous souhaitez séjourner dans un grand nombre, il existe également de grandes cabines pour environ 1,5 million rupiah par nuit. Cependant, la cabine peut accueillir jusqu'à 20 personnes avec des équipements complets tels que toilettes, télévision, karaoké audio et petit déjeuner. En plus de la zone de camping, le tourisme du village Singkur dispose également de camping glamour. Le prix est d'environ 600 000 rupiah par unité pour une capacité de 4 personnes. Chers amis, c'était le magazine culturel.
Selamanya.
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie. C'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Disawa. Disawa, en français, dans la rizière. Bonne écoute. Chers amis, ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Disawa. Disawa, en français, dans la rizière. La situation est, Rama invite Kevin à jouer dans la rizière du père de Rama, puis Kevin voit des gens récolter du riz. Bonne écoute.
Kevin, ayo kita main ke sawah milik ayahku.
Ayo, pasti seru sekali.
Lihatlah para petani yang sedang memanen padi.
Wah iya benar, aku senang sekali bisa melihat langsung padi yang dipanen.
Menarik bukan?
Iya.
Serge Littard, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui, Disawa, Disawa, en français dans la rizière. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Main, main, jouer. Sawa, sawa. Rizière. Pasti seru sekali. Pasti seru sekali. Ça doit être excitant. Lihatlah. Lihatlah. Regarde. Memanen. Memanen. Récolter. Padi. Padi. Riz. Wah. Wah. Sensationnel. Aku senang sekali. Aku senang sekali. Je suis vraiment heureux. Menarik bukan? Menarik bukan? Intéressant, n'est-ce pas? Alangkah. Alangkah. Quel magnifique. Melihat langsung. Melihat langsung. Regarder directement. Para petani. Para petani. Les fermiers. Milik ayahku. Milik ayahku. De mon père. Chers amis, si vous voulez exprimer votre plaisir, vous pouvez utiliser les mots « aku senang sekali »,« aku senang sekali ». En français, je suis très heureux. Ou « menyenangkan sekali », »,« menyenangkan sekali », »,« très agréable ». Pour répondre à une expression de plaisir, vous pouvez utiliser la phrase « menarik bukan »,« menarik bukan », »,« intéressant, n'est-ce pas ?» Ou « wah, syukurlah »,« wah, syukurlah ». Wow, merci mon Dieu. Comme l'exemple suivant. Par exemple, quelqu'un dit Lihatlah para petani yang sedang memanen padi. Lihatlah para petani yang sedang memanen padi. En français, regardez les agriculteurs récoltant du riz. Vous pouvez répondre par Wah, iya benar. Wah, iya benar. Aku senang sekali bisa melihat langsung padi yang dipanen. Aku senang sekali bisa melihat langsung padi yang dipanen. Wow, c'est vrai. Je suis tellement heureux de pouvoir voir le riz récolté directement. Un autre exemple. Lihatlah para petani yang sedang memanen padi. Lihatlah para petani yang sedang memanen padi. En français, regardez les agriculteurs qui récoltent le riz. Wah, iya benar. Wah, iya benar. Menyenangkan sekali bisa melihat langsung padi yang dipanen. Menyenangkan sekali bisa melihat langsung padi yang dipanen. En français, wow, c'est vrai. C'était génial de pouvoir voir directement les riz récoltés. Wah, syukurlah. En français, wow, Dieu merci. En indonésien, les gens utilisent généralement des phrases d'exclamation pour exprimer du plaisir, comme par exemple wah, wah. En français, sensationnel. Wow, wow. En français, sensationnel. Horé, horé. En français, hurra. Alanka, alanka. En français, quel magnifique. Bon, la phrase d'exclamation est capable d'exprimer un sentiment d'admiration ainsi que la joie d'une personne envers quelque chose. Chers auditeurs, avant de terminer à apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Kevin, ayo kita main ke sawah milik ayahku.
Ayo, pasti seru sekali.
Lihatlah para petani yang sedang memanen padi.
Wah iya benar, aku senang sekali bisa melihat langsung padi yang dipanen.
Menarik bukan?
Iya.
Chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour ce soir. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir. Chers amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3-5 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Tiada tertahan, hancur raja hatiku ditelan lautan madu. Aduhai, hilang dayaku, tiada kuasa daku. Thank you.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @boyindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.